C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libre la nation !
Libre la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir.
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur, un sarrasin.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez, vous l'avez compris, la percée de l'histoire pour ce soir sa 8e émission spéciale portrait d'histoire qui sera consacrée à Simon Choulet. On en reparle dans quelques secondes, qui sera accompagné de Salouane, comme d'habitude, l'équipe habituelle. Salouane, comment vas-tu ?
Bonsoir, comment tu vas toi ?
Alors est-ce que j'ai activé ton micro ou c'est parce que tu n'as pas bien parlé dedans ? C'est parce que je ne l'ai pas activé.
Voilà, le technicien. Bonsoir, je disais bonsoir. Comment tu vas ?
Ça va excellemment bien, merci beaucoup. Salouane et également Thomas. Comment tu vas, Thomas ?
Ça va super, merci. Et toi ? Ça va ?
Ce soir, ça va être l'ambiance.
Non, je rigole, ça va très très bien. Et donc, je disais Simon Choulet, bonsoir. Simon.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Avec plaisir, on est Simon au carré ce soir dans le studio.
Oui, c'est vrai.
Double Simon, c'est un honneur. Première d'ailleurs dans l'émission.
Jamais assez.
Ouais, jamais assez. Donc là, on est en force, donc attention les gars. Donc Simon Choulet, tu es étudiant à l'Université du Mans en master histoire et
civilisation et patrimoine, parcours patrimoine et développement local.
Pareil, tu pourras peut-être nous expliquer dans quelques instants à quoi ça correspond. Et tu es également membre du bureau et tu participes, donc tu fais de l'escrime artistique, on va également expliquer ce que c'est, et donc membre du bureau du Cercle d'escrime Adamois, donc tu gères la communication notamment. On va revenir un petit peu sur tout ça pour vous expliquer. Ça va être assez intéressant, voir aussi les détails de l'escrime artistique, qu'est-ce que ça implique, quelle différence avec la MHE qu'on a reçue il y a quelques semaines. Trois semaines, ouais, maintenant, tout à fait. Donc, on commence, c'est parti. Présentation rapide. Donc, tu es on l'a dit, à l'Université du Mans. Déjà, est-ce que tes études se passent bien ? Est-ce que ça va ?
Écoute, très bien. J'étais agréablement surpris du niveau de l'Université du Mans. Moi, j'ai fait une licence d'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'avais quand même de grandes attentes en venant au Mans, parce que je savais que c'est une ville avec un pôle historique très développé. Donc oui, je suis très satisfait de ce master pour l'instant.
Oui, parce que t'as fait Sorbonne, donc c'est vrai que ça, en plus, je le savais, tu me l'avais dit.
Oui, Panthéon Sorbonne.
Ouais, j'imagine que la différence, comment tu l'as senti
Eh bien écoute, pour tout te dire, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on n'est pas très nombreux.
Ouais.
Et donc, on est beaucoup plus proche du corps professoral que je l'étais à Panthéon. Du coup, on a une vraie approche pédagogique qui est intéressante. Je dirais pas beaucoup plus intéressante, c'est différent, mais moi, je préfère, en tout cas, à titre personnel. Et surtout, on se rend bien compte de la spécialisation des professeurs.
Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est une chance. Tu fais bien de le souligner à l'Université du Mans. Qu'on a, c'est que les professeurs d'histoire, les enseignants-chercheurs d'histoire sont...
Accessibles.
Ultra accessibles, ouais, vraiment. Et ils peuvent être maîtres de conférences, etc. En tout cas, ils restent hyper accessibles, donc ça, c'est un vrai avantage. Et donc, bon, rapidement, les études, donc ça, on l'a évoqué, mais là, peut-être rentrer directement dans le vif du sujet, tu es, on l'a dit, membre, en tout cas, tu pratiques
l'escrime artistique.
Tu es criminel, donc, depuis maintenant...
Jean-Marc Morandini.
C'est ça, on va changer d'émission. Non, l'escrime artistique. Ça fait combien de temps que tu pratiques ça ?
J'ai commencé à pratiquer d'abord l'escrime moderne, ce qu'on appelle aussi l'escrime olympique, donc ce qu'on voit à la télé, les rares personnes qui regardent. Donc, ça, il y a à peu près 12 ans. Et j'ai commencé l'escrime artistique il y a à peu près 8 ans. Donc, il y a quand même pas mal de temps.
Ouais, ça fait un moment. Moi, j'en ai fait aussi. Je raconte ma vie.
Mais j'ai cru comprendre.
Mais je te l'avais déjà dit. Ouais. L'escrime et justement, peut-être qu'on évoquera aussi quelle différence, parce que j'imagine que ça doit être différent de.
Oui, c'est très différent.
Ça n'a rien à voir, en fait.
Il y a des bases historiques, on va dire. Mais oui, c'est quand même très différent. La finalité n'est pas la même, parce que l'escrime moderne, c'est une compétition, alors que l'escrime artistique, c'est avant tout une collaboration avec tes équipiers. Il peut y avoir de la compétition, mais ça reste c'est presque du théâtre, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a amené, j'y pense comme ça, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement au Mans? Pourquoi t'avais choisi le Mans?
Mais ce qui m'a amené au Mans, c'est je connaissais un ami au Mans et il m'a montré sa ville et je trouve aussi, je connaissais un petit peu le passé historique de la ville du Mans et la vieille ville, c'est une des choses qui m'attire le plus.
Ouais, parce que oui, vas-y.
Non, rien.
Exprime-toi, Saldoine, il n'y a pas de.
Je validais ces dires. C'est la cité plantagenêt. Voilà.
C'est vrai.
Tout simplement.
Ouais, c'est marrant, mais ça fait plaisir parce que ça, c'est.
Bah oui, mais c'est pas le premier qui le dit et ce sera pas le dernier.
Et ce sera pas le dernier.
Un clin d'œil.
Non, donc. Et donc, membre, peut-être, on va commencer par présenter l'association du Cercle d'Escrime Adamois. T'avais quelques questions ou j'enchaîne directement,
Saldoine? Non, vas-y. La parole.
À tes souhaits, Thomas. Exceptionnel cette émission.
Excusez-moi.
Donc, tu as dit.
8 ans. Non, 8 ans, tu as dit.
Oui, 12 ans pour l'escrime moderne. Parce que j'ai commencé aussi l'escrime moderne.
T'es rentré quand finalement?
J'ai rentré, j'étais en CM2, alors ça fait, ça fait 12-13 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Compter, je ne sais pas faire.
Des maths.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de rentrer dans. De faire de l'escrime? Alors, et après, peut-être.
L'escrime, je connaissais pas bien. C'est vrai que c'est pas un sport qui est très médiatisé, surtout quand on est jeune. Et c'est tout bête. Il y avait un camarade de classe quand j'étais en primaire qui avait ramené une médaille et j'avais trouvé ça chouette parce que c'était un peu inédit. Puis moi, j'aimais bien les mangas comme à l'époque, c'était ça. Zoro dans One Piece. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et au final, c'était pas moi, mais j'ai connu pas mal de choses. Et ce qui m'a fait passer à l'escrime artistique, qui est ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est tout simplement. J'ai appris avec mon maître d'armes, qui était aussi maître d'armes moderne, qui est le maître d'armes du club d'escrime Adamois, et aussi le président, qui s'appelle Jean-Louis Bouglet, que je salue ce soir. Et on le salue tous.
Bonjour.
Qui est un maître expert à l'Académie d'armes de France, et c'est d'ailleurs le dernier maître expert de l'Académie d'armes de France, je crois. Et c'était passionnant parce qu'il avait son cours d'escrime artistique, et on pouvait voir, notre salle d'armes était juste au-dessus, et on avait une vision sur ceux qui pratiquaient. Ça donnait vachement envie, puisque c'est quelque chose de complètement différent. Les voyez se battre, s'entraîner avec des épées médiévales, des bâtons, des rapières, des costumes. Et donc, c'était vachement différent. Et, j'ai pas regretté de m'y être inscrit en troisième, d'avoir essayé.
J'imagine
Une belle découverte, ouais.
De voir les autres se battre avec des costumes et des épées de l'époque, tu dois dire,
Ouais, ça donne tout de suite plus envie que.
C'est ça, parce qu'en plus, il fait vachement chaud dans la salle d'armes, c'est une horreur. Les tenues d'escrime moderne, c'est quelque chose.
Ouais, ça c'est oui,
oui, tu peux confirmer.
Ouais, t'es obligé de bien laver à chaque fois. Donc tu as fait ça et ensuite t'as fait le choix de te lancer là-dedans. Comment après ça s'est passé quand t'es rentré? Quel changement t'as pu remarquer tout de suite quand t'es passé à l'escrime artistique?
Mais déjà l'avantage c'est que j'ai pas arrêté l'escrime moderne. J'ai toujours continué un petit peu au fur et à mesure de moins en moins parce que bon, c'est quand même un gouffre de temps à un moment. Et déjà je suis arrivé dans notre cours, on était assez nombreux, c'était une période faste, mais tout de suite ce qui est bien c'est qu'on s'est tout de suite senti intégré dans troupe. Il faut bien différencier qu'il y a un aspect professionnel des troupes qui existent, et nous vu qu'on est un club, on n'est pas vraiment une troupe au sens propre et financier du terme. Ouais. On est ni une compagnie, mais on dit qu'on est quand même une troupe pour que les gens comprennent. Donc dans la troupe, on était vachement nombreux et tout de suite, je me suis senti intégré, alors que forcément, je ne connaissais pas grand-chose, parce que tout de suite, on a eu des prestations. À l'époque, c'était dans une ville du 95 qui s'appelle Asnières-sur-Oise, une fête médiévale. Et à part que ça faisait seulement un mois que j'avais pratiqué, j'ai pu joindre le truc et on m'a donné un rôle, on m'avait appris quelque chose quand même pour que je puisse montrer, mais tout de suite avec les costumes on nous prêtait, et donc c'était tout de suite, tu te sentais intégré au truc, quoi, ça donnait envie de continuer.
Parce que les troupes, alors ça veut dire que les troupes c'est vraiment des, pas entreprises, mais en tout cas c'est comme tu le dis, il y a un aspect vraiment financier, et donc c'est vraiment là pour vendre des prestations artistiques, alors que là c'est, toi tu lis un petit, enfin c'est un petit peu, il y a quand même des prestations, mais il y a aussi
c'est
la
ça
pratique.
Parce qu'en fait avec le statut de club qu'on a, on a le droit à un certain nombre de prestations qu'on en fait on fait pas officiellement payer, si on est pas remboursé, mais j'ai plus le mot exact, mais on est défrayé, voilà, exactement.
Ah oui.
Alors que les troupes n'ont pas de limite, elles peuvent en faire autant, je crois que c'est 4, je dis entre 3 et 4 pour un club. Et par contre, il n'y a pas de taxe là-dessus. Alors que par exemple une compagnie qui va être avoir le même statut que les comédiens et que les acteurs intermittents du spectacle, justement. Oui. Mais du coup, elles vont avoir des taxes, mais par contre, elles peuvent faire autant qu'elles veulent. Mais d'accord. Elles vont justifier un statut, ce qui nous n'est pas le cas. Par contre, on a le droit à un maximum.
Ouais, donc c'est une vraie différence intéressante. Et peut-être qu'on peut, déjà commencer à expliquer rapidement, mais alors, en quoi ça consiste concrètement l'escrime artistique?
Eh bien, l'escrime artistique, donc c'est une, c'est une, comment dire, c'est une discipline qui relie les l'aspect technique de l'escrime, c'est-à-dire c'est les mêmes techniques historiques qui sont là, que ça soit au Moyen-Âge et époque contemporaine, aussi antique, mais c'est un peu beaucoup moins répandu. Et ça allie avec ça tout cet aspect qu'on appelle artistique, c'est l'aspect qui vient du théâtre, parce que cette discipline a été théorisée, je pense notamment au maître Lacaze, dans les années 1950 à peu près, 1960, et tout au long. Et c'est-à-dire c'est la fusion de ces deux disciplines pour mettre en œuvre avec des répétitions avec un camarade, un compagnon, un binôme, ça peut être en troupe aussi, un spectacle. Et donc, à la différence de l'escrime moderne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une compétition. Le but, c'est de toucher l'adversaire. Là, le but, c'est de surtout pas le toucher.
D'accord.
Il faut donc on s'entraîne, on répète en boucle les mêmes mouvements pour produire un spectacle. Et le but, c'est que ça soit au théâtre. Mais il y a quand même une différence avec l'escrime qu'on peut voir sur le théâtre, parce que la plupart des acteurs de théâtre ne sont pas escrimeurs. Ça nous arrive de former des acteurs de théâtre qui, dans ce cas-là, vont faire de l'escrime. Mais il y aura quand même, ça sera pas exactement la même chose. Et tout ça, c'est dû en fait au public. En fonction du public, on a ce que ça implique, quoi, finalement.
C'est-à-dire sur le public.
C'est-à-dire qu'en fonction du public, tu vas pas avoir les mêmes attentes. Mm. C'est-à-dire un public de théâtre, il vient voir une pièce de théâtre avant tout. Alors après, quand on va voir, par exemple, je pense au club d'escrime, on va avoir pour fêter les 50 ans du club une pièce qui s'appelle D'Artagnan s'en va en guerre, où c'est des escrimeurs qui ont été formés par mon maître d'armes. C'est là dans ce cas, il va y avoir de l'escrime dans la pièce. Mais la plupart du temps, les gens ils vont voir une pièce de théâtre, c'est pour le théâtre, ils vont avant tout voir du théâtre et ils vont pas s'attarder sur l'escrime.
Ah oui, je vois ce que tu dis.
Alors que quand on va dans une fête médiévale, par exemple, là, les gens sont pas forcément connaisseurs, mais ce qu'ils viennent voir avant tout, c'est des combats de chevaliers. Et donc dans ce cas-là, il faut que ça soit technique et on va plus insister sur la technique que sur le jeu de théâtre. Et encore plus maintenant dans ce qui est la compétition, parce qu'il existe aussi des compétitions d'escrime artistique, on pense que ça vaut parce qu'il n'y en a pas non plus énormément, mais là ça va être l'aspect beaucoup plus technique, beaucoup moins scénarisé qui va être mis en avant. Et c'est là où on se retrouve, parce que vous avez parlé tout à l'heure et l'émission était très intéressante sur les AMHE du Mans, et la différence qu'il va y avoir avec l'AMHE, c'est que l'AMHE, eux, ils sont dans cet aspect compétition, c'est en tout cas l'aspect duel, combat.
Ouais.
Ils travaillent ces techniques-là, les techniques sont pas pour tout le monde, parce qu'après il y a des divergences, mais les techniques sont les mêmes, elles viennent des traités, surtout des traités du Moyen-Âge. Bon, les traités aussi modernes, c'est pas vraiment des traités, c'est un peu différent. Mais en tout cas, les manuscrits pour le Moyen-Âge, c'est les mêmes techniques, mais on les applique pareil, sauf que dans la finalité, eux, ils vont à la touche. Mm-hmm. C'est pas la même chose, parce que nous, on veut pas se toucher.
Au final, ouais, c'est plus une chorégraphie qu'un combat.
Ouais. C'est exactement ça, c'est une chorégraphie martiale.
Et je me pose une question, mais je vais te la poser juste après la pause musicale.
Oh.
Sur oui, parce que mais sur par exemple, est-ce qu'il y a des pièces qui ont été vraiment
non,
conçues?
Non.
Oui. Après, tu commences.
C'est vrai.
Non. Juste après la pause musicale, on va s'écouter Out of Touch, qui est une musique que t'as choisie, Thomas.
Et c'est vrai ça.
Oui, c'est toi qui l'as choisie. Elle est très bien, j'ai écouté. Donc on va
c'est
s'écouter.
Bien, hein.
Ah bah c'est parti. On va très bien. Out of Touch, et on se retrouve juste après avec Simon Choulet pour parler d'esprit artistique. We'll be right back.
c'est qui est là ?
La percée de l'histoire.
Tiens ! Mais c'est pas vrai !
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais ?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. J'ai du mal à le sortir. J'allais dire, vous êtes bien sur le rendez-vous des glandus, mais non, c'est dans le générique. Vous êtes ici sur une émission Portrait d'Histoire avec Simon Choulet qui nous parle déjà d'escrime artistique. Et je reviens donc à ma question que je voulais te poser juste avant. C'était par rapport, puisque tu nous disais donc il y avait des, enfin que vous faisiez des, enfin, vous entraîniez des comédiens, etc. sur des pièces. Est-ce que il y a des pièces de théâtre qui sont déjà préconçus pour uniquement des types de combats artistiques, donc ils sont vraiment dédiés qu'à ça, ou est-ce que c'est soit des créations personnelles, ou des, comme tu l'as dit, mais des incorporations, tu vois, il y a, par exemple, il y a une pièce de théâtre en particulier où il y a une scène de combat, et là, vous faites ça. Est-ce qu'il existe des pièces de théâtre qui sont uniquement dédiées au combat ?
Dans le temps, c'est-à-dire à peu près fin des années 80, c'était un peu plus répandu, parce qu'il y avait un peu plus déjà de maîtres d'art en escrime artistique, c'est quelque chose qui se perd un peu. Maintenant, je dirais que ça revient un peu, pas forcément... l'escrime artistique, c'est plus large qu'avant maintenant, en termes de ce que ça englobe, c'est d'ailleurs des fois des causes un peu de... on va dire de joute entre les gens, mais maintenant je pense que ça revient un peu après, de là à dire qu'il y a des pièces de théâtre qui sont faites spécialement pour l'escrime artistique, je ne pense pas, mais des comédiens qui ont fait de l'escrime artistique et qui sont ravis d'en introduire, je pense à mon ami Geoffrey Lopez qui est comédien et escrimeur et qui se plaît à faire ce genre d'ajout.
D'accord. Et donc il y a des créations aussi peut-être personnelles sur des combats, des mises en scène, etc. J'imagine.
Oui,
il y en a plein.
C'est un peu.
Et maître d'armes, ah oui, tu dis qu'il y en a de moins en moins.
C'est pas tant qu'il y a de moins en moins. En tout cas, maître d'armes d'escrime artistique, parce que c'est un peu compliqué au niveau de la fédération, parce que l'escrime artistique fait partie de la fédération d'escrime française.
Oui, d'accord.
FFE. Et ça n'a jamais été très clair ce qui est maître d'armes d'escrime artistique, maître d'armes d'escrime moderne. Jusqu'à aujourd'hui, on peut être maître d'armes d'escrime artistique assez rapidement en étant maître d'armes d'escrime moderne, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, ça tend à obliger à être prof d'escrime moderne, alors que c'est pas vraiment c'est plus tout la même chose, et ça fait fuir un peu les gens, parce que c'est des formations qui sont assez longues. Moi, par exemple, j'ai fait le premier niveau, je suis animateur d'escrime artistique, et c'est vrai que c'est un peu long. Bon, moi, j'irai jusqu'au bout parce que j'aime ça, mais ouais. Je peux comprendre qu'on est dans une des filières, moi, dans la filière universitaire, encore, je suis encore étudiant, et puis je sais ce que je ferai après, et je sais que j'ai du temps, mais quand on est, c'est des choix qu'il faut faire, et là, on nous pousse pas forcément à aller faire ces choix en faveur de, parce que c'est bon, pas quelque chose non plus qui paye forcément, il faut quelque chose à côté, quoi.
Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de maîtres d'armes qui partent, enfin, en tout cas, où il y en a beaucoup en Russie. Alors qu'avant, en France, c'était vraiment une, mais là, par exemple, je vois des escrimeurs modernes s'entraînent français.
Europe de l'Est, ouais, il y en a beaucoup.
Europe de l'Est, ouais. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qui se perd. Et toi, tu fais une formation pour ça?
J'ai fait une formation d'escrime en Normandie, avec le maître Meff, que je salue également. D'animateur, c'est le premier grade, t'as animateur, éducateur. Après, tu peux être éducateur avec une carte professionnelle qui permet de commencer à gagner un petit peu d'avis, on va dire c'est un plus. Et à partir du moment où tu es éducateur, tu peux donner cours tout seul.
Ah oui,
c'est le premier échelon. Tu peux même créer un club, mais bon, tu pourras pas en gagner ta vie parce que tu as une limite de salaire. Après, tu peux être prévôt d'État qui permet d'assister à un maître d'armes, c'est un peu bizarre. Et après, tu commences à être maître d'armes, mais il y a plusieurs échelons de maître d'armes.
Et tu es payé par la fédération
Oui, quand tu es maître d'armes, tu es payé par la fédération d'escrime.
D'accord. Ok, ouais, non, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi cette possibilité-là de
parcours. D'en faire son métier, ouais. Ouais.
Oui, mais c'est-à-dire que, bon, déjà, quand on est escrime moderne, en faire son métier à temps plein, c'est... faut vraiment faire que ça et beaucoup. Mais escrime artistique, c'est plus compliqué parce que généralement, il va y avoir un créneau une fois par semaine. Donc, si tu fais que escrime artistique, c'est impossible.
Ouais, c'est pas viable.
Ouais. La fédération, elle est implantée sur tout le territoire?
La fédération d'escrime, oui, alors on n'est pas très très nombreux, parce que même avec toutes les escrimes modernes, on sera toujours moins nombreux dans toute la France que dans la région parisienne pour le foot, par exemple. Mais puis ça tend un peu à monter, on va dire, pour l'escrime moderne, tu vois. Mais pour l'escrime artistique, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de, enfin, je veux dire, et tout le respect, ça reste de la concurrence pour cette matière-là. Par exemple, les AMHE montent beaucoup, et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, hein. En fait, on n'a pas la même finalité, mais c'est pas pour autant que je n'aime pas, mais c'est vrai que des gens vont, c'est peut-être plus actif au premier abord, et donc les gens vont avoir plus tendance à faire ça. Mais après, c'est vraiment une question régionale aussi.
Et peut-être même aussi, tout simplement, peut-être par un manque d'information, parce que c'est vrai que c'est...
Oui, c'est la fédération d'escrime est plus toute jeune et plus forcément, et pas forcément très modernisée sur certains aspects, mais Je pense que le cinéma artistique se valorise peut-être plus en termes de communication que d'autres types d'escrime.
Oui, il y a aussi les sabres laser.
Là, oui, mais d'ailleurs, ça j'allais en parler. C'est quelque chose qui valorise parce que les gens viennent pour le sabre laser dans la fédération d'escrime et ils vont notamment que le sabre laser c'est quand même très proche de l'escrime artistique dans certains trucs. C'est un peu simplifié. Mais ça peut les amener. On a des surtout que souvent c'est des jeunes. On a des adultes. Nous, dans notre section artistique, on a surtout des jeunes. Et ça peut les amener parce qu'il y a différents types. Pour revenir rapidement sur sabre laser, il y a l'aspect combat qui est vraiment du combat un peu c'est intéressant aussi, mais c'est autre chose. Et l'aspect artistique. Donc nous, on a plus valorisé l'aspect artistique, même si on a des gens qui font le combat et qui le font très bien. Mais l'aspect artistique du sabre laser peut les amener pour aller plus loin vers les armes artistiques.
Ouais, découvrir, élargir le
spectre. Ouais.
Ouais, c'est pas mal. On parle d'armes, bah, peut-être on va développer cette fois-ci les armes de l'escrime artistique.
Exactement, oui. On va revenir sur le côté un peu plus historique de la pratique de l'escrime artistique. Bah, tu parlais tout à l'heure des traités de Talhofer. Est-ce que l'escrime artistique s'est défini sur une période, uniquement le Moyen-Âge, ou on peut en faire sur vraiment, je sais pas, de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale?
On peut en faire de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on ne fera pas vraiment sur les combats de la Première Guerre mondiale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'escrime. Alors, les combats à la baïonnette, pourquoi pas, mais ça sera plus les combats de fleuret, d'entraînement que faisaient les escrimeurs à ce moment-là.
Okay.
Les militaires aussi. Mais oui, tu peux faire tout. Et après, il y a des gens qui se spécialisent. Nous, on n'est pas spécialisés, même si notre période d'armes est très très fort dans l'aspect médiéval. Mais on n'est pas fiché là. En fait, c'est un peu comme ce que tu veux faire. Après, il faut toujours. Tu apprends les techniques. Quoi. C'est sûr que si ça fait que du médiéval, on a des gens qui viennent que pour faire du médiéval, d'autres qui viennent que pour faire de la rapière. C'est les deux armes, on va dire, les plus en vogue. Mais non, tu peux.
Ok, donc tu viens de le dire, les armes. Est-ce que, comme c'est une pratique qui est parallèle à l'escrime, on a que de la rapière, de l'épée ou du sabre, ou on a un peu tout, des haches, des armes d'ast
Alors oui, c'est sûr que les épées et donc que ce soit épée, rapière ou épée médiévale sont majoritaires, mais
peut-être pour préciser, c'est pour les gens, c'est comment on pourrait dire ça. C'est la. Si je dis pas de bêtises, c'est.
Tu fais le geste, ouais.
C'est une grande épée, quoi.
Tu parles de la rapière. Ouais, oui, la rapière, c'est l'évolution de l'épée, tout simplement.
C'est l'épée à l'époque
moderne. À la Renaissance, on va dire. C'est vu qu'il n'y a plus d'armure, plus la peine d'avoir des énormes lames. On est plus sur la finesse et la pointue pour entrer. Et donc, oui, la rapière, c'est ce qu'on voit un peu les mousquetaires.
Les mousquetaires, ouais.
Voilà. Le meilleur exemple.
Oui. Ou Assassin's Creed, pour ceux qui connaissent.
Mais ouais, du coup, les armes.
On peut faire un peu ce qu'on veut. Après, il y a toujours une réglementation. Je dirais, au fil, ça dépend aussi des réglementations. Parce que des fois, il y a des armes, on n'a pas forcément le droit, en fonction de l'âge. Par exemple, tout ce qui est armes de choc, on n'aime pas trop que les enfants jouent avec des fléaux, par exemple.
Oui, forcément.
Mais après, c'est quand même encadré parce que, comme je disais tout à l'heure, jamais on se touche. Mais oui, dans notre club, on fait des combats à la lance. Alors, c'est sûr qu'après, il faut voir la technique parce que c'est beau de prendre une arme, mais il faut dire comment l'utiliser, comment bien l'utiliser, que ça reste historique parce que nous, c'est un peu notre point. On veut toujours que ça soit historique, quoi.
Ok. Tout à l'heure, tu parlais de chorégraphie martiale. Est-ce qu'on a des espèces de, c'est peut-être pas le bon mot, mais reconstitution, chorégraphiée de bataille, je sais pas.
Alors, oui, la reconstitution, ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, on a des exemples pas très loin. Je pense aux fêtes médiévales qu'il y avait au Mans, justement, et même pas très loin au château du Lude. Il y avait des reconstitutions. Alors, de grandes batailles aussi, ça existe. C'est quand même moins proche de l'escrime. Parce que l'escrime qu'on voit, qu'on connaît, c'est l'escrime, on va dire, du duel. Bon, des techniques qui sont rapides, qu'on voit les combats qui durent 5 minutes dans les films, c'est quand même peu probable. C'est souvent lourd, c'est fatigant. Et donc, dans les combats, c'est de la technique passe après la survie, on va dire.
Oui.
Mais je pense que l'escrime artistique n'est pas très proche de ce qui est reconstitution. C'est pas exactement le même monde. Beaucoup de personnes font les deux parce que souvent c'est des passionnés. Par exemple, notamment, je pense à ceux prégnants qui font la reconstitution antique.
Ouais, je pense à ça.
Ils font pas trop le combat. Ils s'intéressent au combat de ce que l'escrime artistique va étudier, mais ils vont surtout faire la reconstitution. C'est vraiment différent.
Plus le côté combat que chorégraphie.
C'est ça.
Du coup, okay.
Ouais, le combat, on va dire le combat de masse, quoi.
Oui, le
et c'est
rangé,
plus
l'aspect
costume
bataille
qui va jouer l'aspect des camps, parce que l'escrime artistique, ce qui est intéressant, on peut comparer ça un peu au béour. Je pense que pour rappeler du fait ce que c'est le béour, c'est les combats Alors, à la différence de la MHE, ils ont des armes plus un peu modifiées. Le BUR, c'est des armes en acier, mais du coup, ils ont des armures.
Et on se tabasse dessus.
C'est ce qui est bien quand on fait de la valorisation du patrimoine, c'est ça, surtout à ça que je m'intéresse, c'est qu'on installe une ambiance. Bon, pour le BUR, c'est surtout médiéval, c'est un des camps. Et l'esprit martinique, c'est un petit peu le juste milieu entre cette ambiance où on installe avec nos costumes, nos armes, et où on va quand même montrer la technique.
Voilà. Et donc toi, qu'est-ce que tu pratiques le plus de l'épée médiévale?
Alors moi, j'alterne pas mal. J'ai beaucoup fait d'épée médiévale. J'en fais toujours. Moi, surtout l'épée longue, c'est-à-dire fin du Moyen Âge. Mm-hmm. L'épée à deux mains. J'ai fait pas mal d'épées boucliers quand j'ai commencé. Et la rapière, j'en fais un petit peu moins. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'était du steampunk, c'est-à-dire parce qu'on n'est pas limité seulement à ce qui est historique, mais donc c'est plus fantaisique. Si je rappelle, c'est sous l'ère victorienne, comme s'il n'y avait pas eu de charbon. Et donc c'est intéressant. Mais ce que j'aime en ce moment, j'aime bien le sabre cosaque. Alors bon, c'est pas trop correct en ce moment. On le fait plus trop parce que les cosaques, c'est les guerriers russes notamment. Donc on peut plus trop. plus trop faire.
Bon, on en avait pas assez. Oui, en plus on avait rencontré une.
Systéma sibérienne.
Une troupe, justement, qui font
de. J'ai rencontré aussi à Compiègne.
Et ils font de l'artistique aussi. Ils font pas, c'est pas du combat, ils sont d'abord.
C'est très artistique, ouais.
C'est plus artistique. C'est la danse des sabres. Enfin, ils dansent des sabres, ils coupent. Oui, on a eu l'occasion de discuter sur ce qu'on faisait. On a nos divergences aussi, parce qu'on n'a pas forcément la même façon de voir, mais il y avait des choses intéressantes. Après, eux, c'était vraiment axé sur le côté culturel.
Oui, ouais.
C'était intéressant. Moi, j'imagine que maintenant, ça va être plus compliqué pour eux, mais.
Quoique, ils ont une belle activité. Je vois sur leur réseau, ils ont pas mal de.
Ça continue encore.
Il y a des gens un peu bêtes, parce que là, la dernière fois à Paris, il y avait un ballet avec des Ukrainiens et des Russes dedans, tu vois. Et bien, il y a des gens qui ont annulé leur réservation parce qu'il y avait des Russes dans la troupe.
C'est ce que je voulais en dire.
Leur réservation a chuté de, allez, on va dire, au moins la moitié des.
Le problème, c'est qu'on repose sur le public, comme je disais, et le public est compliqué.
Il faut
s'adapter parce que c'est le genre de pratique où si tu t'adaptes pas parce que tu vas absolument garder ce que tu fais, tu vas juste pas avoir de succès et tu vas te retrouver tout seul.
Ça sert à rien de s'entêter non plus.
C'est ça.
Et tu disais alors, qu'au niveau des combats, on se touche pas, mais. Tu veux dire au niveau corporel, j'imagine que les épées s'entrechoquent.
Oui, les épées s'entrechoquent, bien sûr. Oui. Non, on se touche pas. On se touche pas de façon inopinée. Ça peut arriver que dans un numéro, tu simules la touche, tu simules la blessure ou même la mort pour la fin du numéro, mais c'est travaillé. C'est-à-dire, faut pas que ça touche en mode de. Oula, je m'y attendais pas, tu vois. Ouais.
Je me suis transpercé.
C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup et on dit qu'une minute de représentation, c'est 10 heures de travail.
Ça donne aussi une belle image pour montrer le travail qu'il y a derrière.
Parce que chaque mouvement.
C'est une chorégraphie, donc c'est répété, 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 je pense.
Totalement, ouais.
Et justement, point de vue travail, est-ce que ça te prend du temps d'apprendre les gestes et de les retransmettre peut-être?
Alors oui, bon, c'est pour ça que quand on commence, on a ce qu'on appelle les cibles, qui sont les répétitions d'attaque, un peu comme les gammes pour un musicien. D'ailleurs, l'escrime et la musique sont vraiment liés. Il y a beaucoup d'appellations en commun, tout ce qui est posture de garde, pour diverses raisons. Mais oui, donc c'est de la répétition, des mouvements de base. Après, il y a des mouvements plus complexes qu'on apprend tout le temps, de toute façon, parce qu'il y a ce qu'on sait et qu'on oublie, ce qu'on sait et ce qu'on fait pas bien. C'est un peu comme partout, quand on pense avoir fait quelque chose, il faut toujours se dire que ça se trouve, on le fait mal.
Ouais.
Et ce qui compte, la priorité, ça reste toujours la sécurité. Et c'est ce qu'on apprend, parce que l'escrime artistique, c'est possible à apprendre très tôt. Nous, on a des jeunes dès 8 ans. Bon, c'est pas les mêmes catégories, ils ont pas les mêmes types d'armes forcément, mais ça reste des armes en acier.
Et ils sont encadrés, quoi.
Ils sont encadrés tout le temps, oui.
Eh ben, on va continuer cette discussion dans quelques instants, juste après avoir écouté une musique que tu as choisie, puisque c'est le moment de la musique de l'invité. Et donc, tu as choisi Kaamelott, la musique de fin du livre 6. Qui est une reprise du. Un remake, non, mais c'est même une reprise quasiment, je l'ai écouté, c'est quasiment à l'identique, du film.
Joe
avec Louis de Funès. Pourquoi ce choix?
Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé regarder Kaamelott, je connaissais depuis longtemps. Alors j'ai étrangement connu par les BD avant de m'apercevoir qu'il y avait une série. La première fois que j'ai vu la série, je me suis dit c'est vachement bien fait, parce qu'ils ont repris les acteurs qui ressemblaient. C'était quand j'étais jeune. Et j'ai beaucoup aimé la fin de la saison 6 parce que ça montre, avec Assis, il a réussi à construire tout son univers, à raconter, et surtout ce qui est bien, c'est qu'on lui reproche pas les aspects historiques, parce que ça aurait aucun sens, parce qu'il est rigolo, parce que quand on voit le début de Kaamelott, c'est des armures en aluminium, qui ont aucun sens, parce que dans les années 400-500, avoir des armures complètes, c'est aberrant, mais bon, c'était rigolo, parce qu'il avait pas beaucoup de moyens, et à la fin, les efforts qu'il a mis pour les décors, pour la façon de tourner, et ce que j'aime bien avec cette musique, c'est qu'on voit comment Arthur se remet à s'entraîner, et j'ai un côté un peu métaphorique de, voilà, quand on est au bout, il faut juste essayer de s'en tirer, quoi.
Et ben, on se retrouve juste après. On va donc s'écouter la musique de fin du livre 6 de Kaamelott. La percée de l'histoire.
Tiens! Mais c'est pas vrai!
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Ah ouais?
Ouais.
En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
Eh ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez toujours La Percée de l'Histoire en compagnie de Simon Choulet qui pratique l'escrime artistique et qui nous raconte un petit peu son parcours et ce qu'il fait, etc. Et c'est Thomas, tu avais une question notamment sur Talofer.
Oui, tout à fait. Alors la dernière fois, on avait déjà entendu ce nom. Plutôt un maître d'armes venu du très très lointain. Et justement, je voulais poser la question de savoir est-ce que vous utilisez ces traités et de quelle manière vous le faites dans votre
Eh bien, Talofer, c'est important pour nous. C'est pas le seul traité qu'on utilise, on utilise tous les traités, on étudie tout, mais c'est vrai que il y a de ça à peu près ça va faire 4 ans maintenant avec mon ami Mathieu Lorieux du Cercle d'Escrime Adamois qui est éducateur là-bas. On a décidé de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Tal et Offer. C'était un jeu de mots, j'ai jamais trop su qui était Tal et qui était Offer, mais c'est pas grave.
C'est pas mal.
On a tourné une première vidéo, c'est assez marrant, un peu rencambolesque dans la forêt avec le matériel. Je sais pas si on avait le droit de filmer ici, on a fait un peu à la va-vite. Et on a laissé un peu ça de côté, on a essayé de filmer autre chose, mais c'était compliqué. Et 2 ans et demi après, on a retourné une vidéo un peu par plaisir et dans son jardin pendant le confinement. pas pendant le confinement, parce que j'avais pas le droit d'être dans son jardin, ouais. On se comprend. Dans, un peu pendant ces périodes un peu troubles. Et quand on l'a mis en ligne, on a eu la surprise de voir ce que ça a fait monter de fou furieux la première vidéo. Mm. On parlait de, en une semaine, on a gagné à peu près 1000 vues, alors qu'on était de base à 200 peut-être. Donc on a trouvé ça chouette et on a reposté une troisième vidéo. Et on s'est rendu compte que les gens qui nous regardaient, c'était beaucoup à l'international aussi, des gens de l'Est, et c'était surtout des gens qui pratiquaient les AMHE.
Parce que je voyais dans les commentaires, il y a beaucoup de... ça parle en anglais notamment.
Oui, en anglais, en italien, en tchèque, des langues de l'Est aussi, du coup on doit traduire quand on regarde, parce qu'on a bien regardé les commentaires. Au début je les disais tous, maintenant ça commence à devenir un peu compliqué, mais et donc on a décidé de devenir plus régulier, de continuer. Et ça a bien marché, on est une... dans ce concept, parce que c'est compliqué de savoir qui est français dans les chaînes YouTube et tout, mais en termes de nombre de vues, pas forcément en termes de nombre d'abonnés, parce que voilà, ça va venir, mais en termes de nombre de vues, on est pas mal classé dans ce qui est club et même compagnie d'escrime artistique en France. Ça marche bien.
En plus, t'as l'offer, du coup, quand tu tapes, je pense peut-être si tu tapes et tout, bah ça vous redirige peut-être sur vous.
Oui, t'as l'offer. Alors sur YouTube, c'est t'as l'offer avec le E, le symbole E. Et on a créé il y a quelques mois une page Instagram t'as l'offer avec les underscores entre tout. D'ailleurs, Simon, tu n'es pas abonné. Je profite. Si. Tu n'es pas abonné.
Attends.
Ton compte personnel, je me suis permis de le dire. Bon, c'est pas grave. Je te pardonne.
Non, mais en direct.
En direct. Je préfère.
Non, c'est vrai. Quel scandale.
Mais oui, tellement.
Toi, tu l'es, Thomas.
Moi, oui, depuis 2015.
Menteur.
Non, les gars.
La réalité, c'est qu'en fait, je croyais que je l'étais. En fait, pourquoi? Parce que je suis sur le compte de la personne.
Voilà.
C'est ce que j'allais dire. C'est très, très bonne photo pour la promotion. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri en la voyant cet après-midi.
J'ai pris la meilleure.
Et donc, bon, pour l'instant, c'est une petite page Instagram, mais on essaye de faire monter. Ça, on s'inspire un peu de ce qu'on voit, parce qu'il faut toujours s'inspirer. Et on aime bien ce côté où alors que dans notre club, on est vraiment tourné vers la pratique escrime artistique, donc vers un peu ce qui est théâtrique, théâtral, et pour le public. Donc, c'est-à-dire des coups, parce que le problème de l'escrime artistique, enfin, c'est pas le problème, c'est la finalité finalement, c'est que il faut que ça soit pour le public avant la technique. Mmh. C'est-à-dire que si on voit, il y a une technique qui est super à un mètre, mais que les gars dans les gradins, ils voient rien, c'est que c'est pas bon. Mmh. Donc, nous, on peut corrompre, modifier un peu la technique. Si c'est dans un but purement théâtral, c'est pas grave. Alors que dans la chaîne Telofer, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment l'aspect technique, et c'est notamment pour ça que beaucoup de gens de Design Machine nous regardent et nous donnent leur avis et des choses qui sont... Bon, et là, on essaye un peu de s'améliorer sur la façon de filmer pour être toujours plus près, ce qui pose des fois des problèmes de tournage, mais c'est...
Donc c'est l'aspect technique proche d'une vérité historique, c'est ça que vous essayez
de... Ouais, c'est ça, ouais. Bon, forcément, quand on fait... parce qu'on a deux types un peu de vidéos, on a des vidéos où on enchaîne plusieurs techniques, on s'inspire un peu de ce qui se fait, et des techniques, on des vidéos où on fait des vrais... pas des courts-métrages, mais des vidéos de 5-6 minutes. Donc là, c'est plus compliqué d'avoir une réalité dans le combat, parce que ça dure 5-6 minutes, ce qui est déjà un peu trop long, mais ça varie, quoi. On essaie de toucher un peu tout, quoi.
Et je vais lancer le débat, attention.
Ah, les débats,
est-ce
j'aime
que,
les débats.
Au Puy du Fou, du coup, eux, leur pratique qu'ils ont, c'est de la... Justement, est-ce que c'est de l'escrime artistique, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu à part?
L'escrime du Puy du Fou, alors ça va faire des pas contents. Moi, je pense personnellement, il y a plein de très bonnes choses à prendre au Puy du Fou en termes de... On parle purement technique, hein, parce qu'ils font des... Oui, oui. C'est l'aspect cascade. De plus en plus, l'aspect cascade est ramené sur l'escrime artistique et joint à l'escrime artistique pour que ça soit toujours plus impressionnant, toujours plus spectaculaire. Je pense que c'est une bonne chose. Alors évidemment, tout le monde n'est pas capable, parce qu'on a des nouveaux arrivants, ils nous voient faire trois saltos. Moi, personnellement, j'en suis pas encore là. Donc c'est sûr. Après, il y a... est-ce que eux, ils font de l'escrime? Ça, c'est compliqué. Ils ont un maître d'armes qui est très 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 sympa, le maître Penalec, qui a une super super compagnie. Mais il y a quelque chose qui nous dérange personnellement, à titre personnel, je pense, c'est l'aspect. Il y en a, ils se considèrent comme des cascadeurs. Bon, je pense, il y a eu très dernièrement, en 2019, je crois, 2018, un championnat de France d'escrime artistique. Mmh. Le Puy du Fou, les compagnies plus ou moins liées au Puy du Fou ont pratiquement tout gagné. D'accord. Et je pense que c'était pas exactement ce qu'on pensait. On s'attendait, parce que ils se disent eux-mêmes forcément qu'ils sont escrimeurs. Ils font beaucoup de cascades, beaucoup de... Et surtout, c'est la question des armes, parce que nous, on utilise... moi, je pense que historiquement, on doit utiliser des armes en acier. Mmh. Et eux, ils utilisent des armes en composite, en aluminium, qui sont beaucoup plus légères. C'est sûr qu'on fait trois saltos avec une...
Donc, en fait, si je comprends bien, et c'est ce qu'ils ont peut-être visiblement, semble-t-il, fait à la compétition, c'est qu'en fait, ils ont mis beaucoup plus en avant les cascades, etc., plus que l'escrime en tant que telle, la technique de l'escrime en tant que telle.
Voilà, il y a des choses qui font qu'il était technique, mais c'est ça. Il y avait pour moi moins de technique profonde, c'est plus les cascades. Et surtout, historiquement, c'était zéro, parce que quand tu fais une...
T'arrives pas en combat, trois saltos, en gare.
C'est ça, puis et encore, bon, l'aspect artistique, je suis d'accord qu'il est très important, parce que c'est l'escrime artistique, quand même. Mais les armes en aluminium, et ça, c'est un vrai débat. Il n'est pas que ici, le vrai débat, la fédération se casse vraiment la tête à savoir si on doit faire des armes en aluminium, des armes en, si on a le droit de tout autoriser. Je pense que, et c'est dur de savoir la tendance, parce qu'un jour, on apprend quelque chose qui n'est plus vrai le lendemain. Donc bon.
Ah, puis c'est l'objet de débat, ouais. Du coup. Ouais,
mais ça n'enlève rien à dire que ce qu'ils font est spectaculaire, c'est vrai.
C'est des façons, en fait, ouais, de voir différentes.
C'est ça, ouais. C'est... Je pense qu'il y a plein de choses de bonnes à apprendre. C'est comme chez Jérémy Macheux, il y en a qui critiquent les esquimeurs, critiquent des fois la Macheux, je me critique des fois les esquimeurs artistiques. Je pense qu'il y a des choses bonnes à apprendre chez eux. Nous, on est ravis de prendre ce qu'ils font de bien. Alors, ils sont super pointilleux. Bon, pas tous, hein, comme partout en esquimeurs artistiques. Mais nous-mêmes, en esquimeurs artistiques, on n'est pas d'accord entre nous. On démontre un peu le problème du puits du fou. Et même en général, parce qu'il y a des gens qui vont être plus en mode l'esquime médiévale, c'est il faut faire que ça. D'autres, ils vont, et c'est plus la tendance qui vont dire l'esquime artistique, c'est la rapière, c'est fleuret, c'est.
Mais c'est très associé. On vous colle un peu une étiquette.
C'est ça, les gens se collent même des fois aux étiquettes et ouais. C'est compliqué parce que des fois, il y a des maîtres d'armes qui sont là super longtemps, qui n'ont pas envie de changer ce qu'ils font. Mais après, il y a des jeunes aussi qui arrivent et qui ne sont pas du tout d'accord avec nos trucs. Bon, ça, c'est compliqué, mais je pense qu'on va arriver à tous entendre.
Bah, surtout qu'en plus, c'est le fruit d'interprétation sur des textes, etc.
Ça, l'interprétation, c'est compliqué. Ouais.
Donc, forcément, chacun y voit un petit peu à sa manière et en tout cas en essayant d'être plus proche, mais donc forcément, parfois, ça peut être l'objet de différences. Qu'est-ce que je réfléchis parce qu'en même temps je vois le temps. Qu'est-ce que t'avais peut-être des dernières choses à dire. On vous suit donc avant de passer au portrait d'histoire hein, évidemment. On vous suit sur donc t'as dit la chaîne YouTube pour voir les vidéos.
C'est Tal et Offer.
Tal et Offer avec le et symbole.
Le symbole ouais,
le nom même. Ça. Et sur Instagram c'est Tal
underscore Offer
tiré du 8
Et rapidement j'ai vu du coup sur cet Insta puisque je l'avais vu bien même si t'es pas abonné c'est bon.
Ouais rappelle-le.
Mais que tu étais, alors je ne sais pas où, mais est-ce que tu peux, parce que tu étais je sais pas, il y a la dernière photo que tu as mis.
Ah, la dernière photo, ah oui, alors on a été tout simplement au carnaval de la ville de Villadan, la ville qui abrite notre lot d'escrime, et on avait d'accord. Du coup un carnaval avec une tente médiévale qu'on s'est acheté.
Olifant and Sword, bien sûr.
Et vous avez fait des démonstrations, etc.
Alors, le truc un peu comique, c'est qu'on a fait des démonstrations. Moi, personnellement, j'ai fait. Bon, j'avais pas tout mon matériel, mais pour une question, une
raison qu'on n'évoquera pas ici.
Et
qui a piqué ton matériel?
Et enfin, je devais faire un numéro Kodak. Par chance, c'était le seul costume que j'avais sur moi. Mais avec la situation actuelle, on s'est dit qu'on voulait pas se retrouver avec des gens pas contents. Ouais. Donc, faut pas jeter le diable, enfin, le petit diable, comme on dit. Et donc, j'ai fait du sap Kozak en médiéval, et quand les gens venaient voir, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, fallait pas trop dire, parce que j'ai pas envie de dire des conneries quand même en disant que c'est un sap médiéval, mais. Donc, bon, j'ai fait, on va dire, du Kozakus.
Est-ce que comme les Kozaks, tu fais de la découpe de bouteilles ou non?
Non, ce qu'on avait fait, alors, c'est petite anecdote comique, on a fait la présentation juste avant eux, on était bien content d'avoir fait juste avant eux à Compiègne au Food Histoire qui était un super événement parce que l'état de la paille après eux quand ils sont passés avec leur découpe des bouteilles, les mecs qui sont passés après, je peux vous dire ils étaient fous.
Ah c'est en plus
vraiment ils l'ont fait le dimanche, ils l'ont fait autre part.
Bah nous on y était quand
c'était
le dimanche.
Le dimanche,
ils avaient fait ça sous la pluie en plus.
Sous la pluie ouais.
Donc c'était assez catastrophique mais pourtant ils ont bien réussi, ils sont bien débrouillés.
C'est pas qu'il pleuvait mais c'est que il faisait pas beau. Après il a plu après.
Ouais, il a plu enfin
soir on a pris les sandwichs
on est parti se cacher bon. Ouais, juste après. Le midi ouais.
Mis à part cette petite anecdote sur Compiègne, on va passer du coup à ton portrait d'histoire. C'est parti, c'est tout de suite.
Alors là, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
Le portrait d'histoire.
Un petit mot.
Merde.
Voilà. Et d'où venez-vous?
Merde.
Très bien.
Le portrait d'histoire, donc, de Simon Choulet. Donc, le principe, c'est simple. C'est quelques petites questions type portrait chinois, mais en version...
historique.
Exactement. Merci, Salvan. T'as réactif, c'est cool. Si vous étiez un personnage... Bah, si tu étais un personnage historique, qui serais-tu?
C'est une bonne question. Moi, personnellement, j'aime bien, bon, on va dire, pour rester un peu dans la logique, j'aime bien Bertrand du Guesclin, parce que c'est un personnage tout à fait atypique dans les héros, on va dire, les héros, les chevaliers, parce que son histoire est tout à fait atypique, comme je disais, parce qu'il est né, il était noble, mais il s'est fait bâtardiser par son père, parce qu'il était trop, de ce que disaient les gens, il était trop laid. Et du coup, il s'est fait bâtardiser. Et en fait, par ses capacités, c'est devenu un bandit de grand chemin absolument effroyable. Et par ses capacités, un jour dans un tournoi, il est revenu, il a battu tout le monde. Et quand c'est arrivé au tour, il devait jouer contre son père. Il a dit, il s'est mis à genoux, il a enlevé son casque, il a dit, je me battrai pas contre ton père. Quoi. Ouais, et donc son père est arrivé, il est tout content parce qu'il avait qu'une peur. C'était... D'ailleurs, on dit que la légende du chevalier noir vient de Duguay-Clin parce qu'il était tout en noir. Et donc son père a dit je te reconnais, c'est mon fils. Quoi. C'est...
Et du coup,
Et ouais, Duguay-Clin, destin incroyable avec la guerre de 100 ans.
On parle beaucoup de Jeanne d'Arc, mais il ne faut pas oublier que Duguay-Clin, la première partie de la guerre de 100 ans, c'est lui. Hein.
Peut-être une chronique un jour. Sur... Si t'étais une période de l'histoire.
Alors, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, mais vivre dans la boue, non merci. Je serais l'Antiquité, je pense, parce que... l'Antiquité grecque ou romaine, parce que bon, vivre dans la boue, dans d'autres pays, non merci non plus. Parce que l'eau courante, c'était quand même chouette. Ouais. Et les temples...
L'eau courante, mais les canalisations étaient...
Après, ça dépend quelle période de l'Antiquité, on se comprend.
Oui, si on est sur la fin, c'est tout de suite...
Oui, c'est tout de suite
moins réjouissant.
Si t'étais un monument historique.
Ah oui, c'est une... Alors j'aime beaucoup le château de Pierrefonds, parce que c'est un château qui est un château fort construit par la famille d'Orléans, donc pendant les rois maudits je crois, et il a été reconstruit par Viollet-le-Duc sous Napoléon III, et que c'est un château absolument incroyable parce que c'est un des plus un château fort les plus complets, mais il est plein de fantaisie quoi, c'est le château de la Belle au Bois Dormant avec
toutes les tours,
comment les gens du 19e siècle imaginaient un château. Et ce qui est rigolo, parce que Viollet-le-Duc, c'est un type qui s'y connaissait parfaitement, donc il a vraiment fait ce qu'il voulait, en fait.
Ah, il se faisait plaisir. Si t'étais une invention, enfin non, un costume historique, justement. Si t'étais un costume historique.
Alors, j'aime beaucoup les capes, quand même. Les capes, c'est quand même une chouette... C'est dommage qu'on n'en porte plus, d'ailleurs.
Parce que c'est vrai que je confirme.
C'est chiant, puis maintenant avec la bagnole, ça se coince dans ta porte.
Alors c'est sûr que c'est pas évident. Le dernier tournage qu'on a fait avec la cape, il y a eu des prises à refaire. Mais oui, c'est.
Ouais, non, c'est pas mal.
Puis après, il y a un chien qui vient, puis je sais pas, puis tu sais, destination finale, t'as un camion qui arrive, il t'emporte et crac, ça te craque le cou.
T'as une vision de la cape.
Ouais, c'est.
J'ai regardé les indestructibles et pas de cape.
Pas de cape, ouais, d'accord.
Il y a différents types de capes, bien sûr.
On retient le message. Si t'étais une invention historique.
C'est une bonne question, mais je pense qu'être passé des latrines aux toilettes, c'est quand même quelque chose de chouette. Mais j'aimerais pas être une toilette, cependant. Mais je pense qu'on va dire une épée. On va dire, j'aime les épées. C'est quand même une belle invention.
C'est une belle invention.
Est-ce que vous savez pourquoi les nobles se battent à l'épée? On va prendre des choses aujourd'hui.
Ah, attention, instant anecdote.
Pourquoi ils se battent?
Parce que la différence des autres armes, c'est que l'épée, c'est la seule arme qui ne devient pas d'un outil.
Eh oui, c'est vrai.
L'arme, c'est pas la bêche des paysans, c'est pas la houe, la hache des bûcherons. C'est
quelque chose exprès.
C'est le glaive.
Oui. Et j'allais dire pourquoi la croix aussi, non, parce qu'il y a la...
Donc ça, c'est la croisade, c'est plus les épées médiévales, mais bon,
c'est plutôt l'imaginaire
catholique des chevaliers.
Si vous étiez, si t'avais un super pouvoir...
Tous les verbes.
Je suis ici, cours de grammaire. Si t'avais un super...
C'est de la conjugaison, mais c'est pas grave.
C'est bonjour à tous.
Si tu avais un super pouvoir...
Non, si t'avais un super pouvoir...
Étant un grand fan de Jojo Bizarre Aventure, j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps tel duo.
Zawardo.
C'est exactement Zawardo, ça serait quelque chose.
Et c'est une première.
J'entends beaucoup les gens dire remonter le temps, mais
après 8 émissions, eh bien, tu es le premier à nous dire, arrêter le temps.
Quand on est skimmer, c'est remonter le temps pour revoir en boucle sa défaite, ça sert à rien, alors que arrêter le temps pour gagner.
Pour gagner.
Tous les coups, c'est quand même beaucoup mieux.
Vois, toute la démarche qu'il y a derrière.
C'est pensé et
ça change la vie.
C'est très jojo-esque.
Bah, merci beaucoup pour ce portrait d'histoire. Et alors, on va peut-être là, on a encore quelques minutes, parler de tes recherches. Sur quel thème, toi, puisque tu es étudiant?
Mais c'était ma question. Il m'a piqué ma question.
On va le faire ensemble. Donc, tu es étudiant à Le Mans Université, en master histoire et patrimoine et civilisation. Tu feras là, j'ai compris, mais c'est pas grave, bref.
Et du coup, c'est quoi tes recherches?
Alors, mes recherches portent l'utilisation de l'escrime historique. Je prends pas seulement l'escrime artistique, je m'intéresse à tout ce qui s'apparente à l'escrime historique. Donc, c'est-à-dire, surtout les AMHE, un peu le Béour. C'est dans la médiation et la valorisation du patrimoine médiéval. Finalement, c'est pas seulement le patrimoine médiéval, parce que quand on fait une fête médiévale dans un village où il y a absolument rien de médiéval, est-ce que c'est vraiment du patrimoine médiéval? Moi, je pense. Et puis, quand on parle d'escrime, on est obligé aussi de s'intéresser, surtout d'escrime artistique, on est obligé de s'intéresser aussi à ce qui est escrime grand siècle avec les rapières. Donc, c'est un peu tout l'escrime dans tout le patrimoine, en fait, dans la médiation en général.
Et qui c'est qui te suit pour ton...
Sous la direction.
Alors, j'ai la chance d'être suivi par Monsieur Vincent Coriol à l'université du.
D'accord.
On a des discussions très intéressantes.
Ouais, très très cool, Vincent Coriol, très très gentil.
Ouais. Et tes recherches, ça se passe bien?
Oui, alors j'ai découvert pas mal de choses et toujours un plaisir. Bon, alors le problème, c'est toujours les gens vont fouiller dans les archives. Moi, j'ai pas forcément besoin d'être dans les archives tout le temps parce que je fais pas non plus une étude sur les traités. J'en parle forcément, mais ça va plus, moi ça porte plus sur les événements eux-mêmes et donc ça on trouve bon il y a des, j'ai découvert d'intérêt des archives récentes des journaux comment on peut notamment tout ce qui est le Manly bon j'ai vu vous avez reçu dernièrement là c'est le journal du, le
la vie mensuelle ça c'est
super intéressant sur bah notamment les fêtes médiévales de, du Mans qui il y en a plus maintenant c'est assez
pour l'instant.
Attends, mais bon, je, si je suis venu ici, c'est pas pour rien.
Il y a eu, en effet,
oui, les scénomanies.
Les scénomanies, en effet, qui. Notamment, parce que je sais. Non,
il n'y avait pas que ça. Il y en a, et même à l'échelle de la Sarthe, il y avait.
Oui, bah alors, par contre, oui, dans le. Tout dans ce qui est Sarthe, Sarthe et. Le Maine. Non, le Maine, oui.
Oui, le Maine. Oui, le Maine.
Bienvenue. Il y avait beaucoup de choses, et encore aujourd'hui. Mais alors, surtout, par contre, on n'est pas très loin du Puy du Fou, donc. Près de la Vendée, enfin, c'est un monde qui est petit. Hein.
Oui, bah oui.
Il y a quand même, ça rayonne un peu. Maintenant, c'est surtout les AMHE, beaucoup moins d'escrime artistique de ce que j'ai vu. Il y a des plus en Mayenne. L'escrime artistique en Mayenne, il y en a. Ouais. Mais il y a beaucoup de châteaux, donc forcément, ça attire.
Forcément, et ça attire beaucoup plus.
Bien sûr.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Simon pour oh, c'est bizarre de dire ça.
Ah ça fait bizarre de
hein, mais merci Simon de
Non merci beaucoup pour cette émission, c'était tout à fait passionnant. On te souhaite bon courage du coup pour tes études pour oui. Bah le reste pour la suite et puis au plaisir de te revoir. De toute façon, il faut que je te rende tant possible.
C'est vrai. Mon épée.
Je vais pas le dire. Voilà, merci beaucoup. Merci Salouane, merci Thomas. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours une émission Portrait d'Histoire. Mais alors
non, la semaine prochaine, il y a pas
demain,
d'émission.
Demain le 5. La semaine
Pourquoi
prochaine
c'est le 5 avril.
Et donc
c'est ouais, censé être le projet Avenger. Mais on devait avoir plein d'historiens et au final ça s'est pas
si,
fait parce
je vais
que
essayer,
les
si,
emplois
si,
du
si,
temps
si,
de
si,
tout le monde.
Je vais essayer d'avoir le 5 avril. Je n'en dis pas plus.
Pas de spoil.
Et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.
On a hâte.
Pour la prochaine émission. On souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très vite.
À la semaine prochaine.
Comme dirait Giscard, au revoir.
Bien vu. C'est bon.
C'est une révolte. Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris. I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faudrait groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit groupir.
But alors, you are French ?
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle.
Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence. Maintenant.
Maintenant.